Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette rencontre avec Jean-Pierre Xiradakis, avec qui nous allons cheminer de Bordeaux jusqu'à la Crète. Marche à pied de vigne, sortie aux éditions Ferré il y a 200 quelques temps, qui est un projet que finalement Jean-Pierre a dû porter toute une partie de sa vie et qui aujourd'hui est enfin écrit. On verra pour quelle raison le livre s'appelle Marche à pied de vigne d'ici quelques instants. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Pierre et son histoire, je voudrais vous la raconter. On est en mai 1968. Pour 700 francs, Jean-Pierre Xiradakis achète une épicerie rue Porte de la Monnaie à Bordeaux qu'il baptise la Toupina. Plus de 40 ans après, cette rue est presque devenue la rue Xira, vous le savez, avec jusqu'à il y a peu 6 établissements créés par cette infatigable figure de Bordeaux et homme d'affaires avisé. Le succès est arrivé dans les années 90 dans ce quartier qui avait un tout autre visage. Fidèle à la cuisine de sa mère, il a toujours proposé cette gastronomie du Sud-Ouest sans céder aux modes, sans se dérouter, en la sublimant. Et cette persévérance lui a valu une reconnaissance internationale. Au début de la Toupina, ça n'a pas été facile. Il y avait un vieil électrophone qui passait en boucle les 4 saisons de Vivaldi. Dehors, des bagarres qui étaient plutôt fréquentes au coin de la rue. Et les clients ne s'appelaient pas encore Johnny Hallyday, François Mitterrand, Jacques Chirac, Alain Juppé, pour n'en citer que quelques-uns. Alors les temps ont changé, la rue a été repavée à l'ancienne. Elle est devenue gourmande et chaleureuse et économiquement viable. Chaque année, ce sont plus de 60 000 couverts pour une grande part de touristes pour la seule Toupina. Jean-Pierre Xiradakis, qui a gardé de l'enfance de la rocaille dans le verbe, c'est tout à la fois un gascon qui parle fort et un sensible qui, avec le temps, est devenu un remarquable chineur et, on le sait moins, un grand amateur d'art. Car si la cuisine est sa vie, l'art est son jardin secret. Très tôt, il va commencer à collectionner des œuvres d'artistes internationaux, mais aussi d'artistes bordelais qu'il soutient. De ses heures passées chez les brocanteurs de Saint-Michel ou d'ailleurs, il a constitué une collection d'objets plus ou moins insolites, des objets, des tableaux, des meubles entreposés, rénovés, qu'il a donné une seconde chance dans une maison d'hôte ouverte et qui s'appelle la Maison Fredon. Jean-Pierre Xiradakis est aussi un marcheur, et c'est ça ce qui nous intéresse ce soir, un arpenteur, en ville ou sur les chemins, seul ou avec ses proches. Son amour de Bordeaux, des vieux métiers, des ruelles, du temps qui passe, l'amènera à écrire des livres sur le patrimoine, sur les viticulteurs, à partager sous forme de conférences son expérience et à jouer les ambassadeur de Bordeaux à l'étranger. Le gamin qui jouait dans le quartier des Capus n'a rien oublié de son enfance, des copains, de ses origines, de la rudesse de la vie. Et lorsqu'on entre dans la Toupina, le temps s'arrête, on parle fort, le patron est là, Xira est là, il serre des mains, dans la cheminée une côte de bœuf, une belle odeur de frites, et pas loin une table de japonais qui vient manger, au sens strict du terme, manger la France. Jean-Pierre Xiradakis, merci.
C'est un genre de nécrologie.
Non, c'est pas du tout une nécrologie, c'est l'histoire de Jean-Pierre Xiradakis. Il est toujours là, il est bien vivant, voilà. Et donc, il publie Marche à pied de vigne. Alors, je lisais un projet que vous avez porté quand même assez longtemps, parce que vous êtes un marcheur, on aurait l'occasion de parler de la marche. Ça fait très longtemps que vous aviez envie d'aller comme ça, comme Jacques Lacarrière, comme Alexandre David Nel, suivre les chemins des vignes.
J'aurais bien aimé aller au Tibet.
Ouais, mais je ne sais pas si on fait du vin au Tibet.
Déguisée en femme, parce qu'elle, elle était déguisée en homme. Ouais. Ouais. Mais je marche, ce que je raconte dans le livre, dans les premières pages, c'est j'ai découvert la marche à l'armée, finalement. Pour plein de jeunes de mon âge, l'armée était une contrainte. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une évasion. D'abord, aller dans un autre pays qui était toujours en France, mais c'était les Vosges. Moi, garçon du Sud-Ouest et plutôt gascon, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient un parler différent et surtout des paysages qui étaient différents. Et je regardais avec curiosité. Bon, bien sûr, il y avait les contraintes de l'armée. Comme j'avais eu la chance d'être dans un régiment disciplinaire qui était un régiment de tirailleurs algériens, parce que je m'étais fait remarquer à Limoges, je crois, un peu bruyamment, en tous les cas. Je me suis retrouvé là, dans un pays que j'ai adoré de suite, parce qu'on y marchait tous les jours. Et j'ai découvert à la fois la marche, mais outre la marche, j'ai découvert ce que la marche a mené. C'est-à-dire qu'en dehors de l'effort, tout l'environnement des Vosges, Gérard Mer, les forêts, les petits lacs, c'était absolument magnifique. Et c'est à partir de là que j'ai aimé me balader et surtout faire quelques kilomètres loin du bruit, loin de l'environnement qu'on connaît, loin de plutôt être dans le milieu, soit dans la forêt, soit dans des vignes, comme je le fais là, dans Marche à pied de vigne.
Souvent avec un appareil photo en bandoulière. Et alors, effectivement, dans la nature, mais aussi en ville, hein, puisque pour ceux qui sont sur les quais, tôt le matin, on peut croiser Jean-Pierre qui fait ses 8 km, c'est ça, 8 km quotidiens, hein.
Oui, je fais le tour des deux ponts.
Voilà, le tour des deux ponts. Et puis, vous marchez aussi avec d'autres marcheurs qui marchent et avec qui vous conversez.
Oui. Non, mais ça, c'est... Donc, moi, je pense que... Alors, j'étais à l'armée, je marche, je trouve ça bien, je reviens ici. Ma première femme était du Pays Basque, donc on va au Pays Basque. Je tombe sur des amis au Pays Basque qui, eux, étaient aussi marcheurs, ont fait des morceaux de GR avec le sac à dos et tout ça. Et cet environnement me plaisait. Mais je n'avais pas encore découvert ce bonheur qui est le bonheur de la liberté de circuler comme ça. Alors, le marcher sur un GR avec des évidemment, sa monte et sa distance, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des gens qui adorent ça. Mais moi, j'aimais ça. Mais il y a toujours la contrainte du chemin parcouru. C'est-à-dire, on part le matin à 8 heures, on marche, on s'arrête pour déjeuner et on repart l'après-midi. On fait 5-6 heures de marche avec toujours cette notion de kilomètre et de distance parcourue. Et compte tenu de ça, quand j'ai ouvert mon restaurant, je me suis dit qu'il était utile pour moi d'apprendre le vin. Et la meilleure façon d'apprendre le vin, c'est effectivement d'en goûter, de visiter les propriétés. Mais je me suis dit, la bonne façon pour moi, c'est de visiter les propriétés bordelaises à pied. C'est-à-dire que je suis parti avec mon sac à dos et je le faisais assez souvent, toutes les semaines pratiquement. Et je faisais 20 ou 30 kilomètres dans la vigne. Ça a donné lieu à des guides qui s'appellent les Grands Vignobles Pas à Pain, une collection dont j'étais le directeur avec Alain Aviotte. Et on a fait à peu près 60... On a fait 4 guides sur la Gironde, donc sur le vignoble. On a fait 80 balades au milieu des vignes. Et là, on se rend compte qu'on est dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il n'y a pas de clôture, on est dans un monde, quand même à Bordeaux, c'est peut-être un des plus jolis vignobles, en tout cas celui qui a le plus de notoriété et dont les bouteilles se vendent le plus cher, mais on est en totale liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture et on peut circuler au milieu des vignes. Alors, quelquefois, on est interpellé par des gens, mais ça, c'est la loi du marcheur, c'est-à-dire que quelquefois, vous avez des gens qui vous regardent d'un drôle d'air, mais à 90%, les gens vous regardent plutôt avec beaucoup de complaisance et beaucoup d'amitié et beaucoup de gentillesse. Le marcheur n'est pas agressif, il est plus apparenté à un pèlerin qu'à un vagabond, et généralement, quand les gens vous regardent... Enfin, moi, j'ai un certain âge, donc je pense que maintenant, j'ai la mine qu'il faut. Mais même quand j'étais plus jeune, les gens vous regardent avec beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie. Et moi, je sais faire, en tous les cas, quand je me balade, je sais parler aux gens, je sais m'arrêter dans un village ou dans un hameau, m'asseoir à côté d'une personne âgée, une personne plus âgée que moi, qui est assis sur un banc, la conversation vient vite, et là, on apprend plein de trucs. Il suffit d'avoir la clé pour arriver à faire parler les gens. Et c'est vrai que moi, je rêve de... Aujourd'hui, on parle de l'œnotourisme, par exemple, ou du tourisme viticole. Moi, j'ai sillonné tout le vignoble à pied, et je peux vous assurer que quand on est dans le vignoble, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on arrive en voiture. Mais... Quand on est dans le vignoble, moi, je rêverais d'avoir un guide dans chaque appellation qui vous amène à l'endroit où on pêchait les écrevisses il y a quelques années, parce que maintenant, malheureusement, il n'y a plus d'écrevisses, à l'endroit où on battait le foin, à l'endroit où, dans la petite église romane, où il y a des modillons pornographiques. Ça, maintenant, je le vois, je le regarde, mais je rêverais tellement que des gens... On parle de chômage dans les campagnes. Il y a plein de petits boulots qui seraient absolument formidables.
Il y a un personnage supplémentaire, on va dire, ou des personnages supplémentaires dans ce livre, parce qu'il y a un véritable intérêt, ce livre tourne autour de ça. Il y a des rencontres avec des hommes, bien évidemment, avec des viticulteurs en particulier, et il y a la rencontre avec les cépages. Car qu'est-ce que serait le vin s'il n'y avait pas les cépages, l'histoire des cépages, la variété des cépages. Et vous le dites au tout début du livre, hein, le génie du vin, enfin, c'est pas vous qui le dites, c'est Olivier de Serres, hein, c'est le génie du vin et dans le cépage. Et donc, pour découvrir ces cépages, il est parti, donc, comme le dit Patrick Espagnier, hein, que vous citez, à qui vous empruntez le titre pour ce livre, sans se presser, au pas de l'homme, au pas de l'homme. Je trouve que c'est très beau, ça, parce qu'il y a toute la lenteur d'un monde qui va beaucoup trop vite. Et donc, ce projet, c'était de partir pendant un mois, et vous êtes parti de l'entre-deux-mers, un des vignobles que vous préférez, un des paysages que vous préférez, Jean-Pierre.
Oui, parce que c'est mon origine, certainement. J'aime les paysages qui sont beaux. On compare souvent l'entre-deux-mers à la Toscane. Je suis allé à Toscane dans ce livre, j'ai traversé le Chianti, mais je trouve que l'entre-deux-mers n'a pas à se comparer à un autre territoire, puisque lui-même est absolument unique. Et c'est aussi, par rapport à mes origines, c'est aussi l'endroit où il y a des viticulteurs qui sont, entre guillemets, pauvres. C'est-à-dire que nous, quand on parle de... Enfin, nous, les gens, quand ils parlent de Bordeaux, pensent toujours aux grands crus, aux gens qui ont beaucoup d'argent, et ils font tout pour qu'on ait ce regard-là. En fait, je parle des grands crus. Aujourd'hui, il y a des gestes architecturaux dans la vigne qui sont magnifiques, mais c'est le pouvoir de l'argent, et c'est pas plus mal. Moi, je trouve que c'est bien pour la notoriété de Bordeaux, mais il faut aussi penser à 70% des viticulteurs bordelais qui ont, entre guillemets, malheureusement hérité de leurs parents et qui ne peuvent pas se séparer de la propriété, non pas à cause de l'argent que ça représente, mais à cause de l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de leur famille. Et ils sont coincés à être viticulteurs. Et quand on vend des bouteilles 5 ou 6 euros, la rentabilité est faible. Et moi, je connais des jeunes de 30 ou 40 ans, c'est pour ça qu'on a fait le prix raisin dont on parle là, pour les encourager. 30 ou 40 ans, qui vivent à 2 ou 3 sur la propriété, c'est absolument impossible. Et l'entre-deux-mers, en dehors du fait qu'il y a des... Pour moi, c'est le vignoble le plus intéressant sur le plan de l'architecture, de l'histoire, des paysages. C'est vraiment sublime. C'est là où il y a le plus d'églises, de petites églises romanes qui sont absolument magnifiques, qui sont la plupart du temps ouvertes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus rien à voler. Mais il y a aussi des sites préhistoriques, il y a des sites romains, il y a des sites mérovingiens, il y a des bastides, il y a la plus grande allée couverte d'Europe, elle est à Lugasson. Vous ne pouvez pas savoir, il y a des milliers de choses dans ce périmètre. Après, je vois que le tourisme se déplace plus vers le Médoc, qui est absolument hideux. Je ne sais pas s'il y a des médocains ici. Mais c'est pas joli, le Médoc, à part bon, l'estuaire qui est majestueux. Il y a quelques châteaux, il y a des châteaux qui sont très beaux, en tous les cas des châteaux historiques, mais franchement, le Médoc, c'est pas le plus joli vignoble. Saint-Émilion, c'est très beau aussi. Mais dans l'entre-deux-mers, j'ai voulu partir de là, parce qu'aussi l'histoire de la vigne à Bordeaux, elle est en partie liée à l'entre-deux-mers, puisque les moines de l'abbaye de la Sauve ont planté de la vigne, les moines bénédictins ont planté de la vigne, et les moines de l'abbaye de Saint-Ferme, qui étaient aussi des bénédictins, qui dépendaient de la Sauve, ont aussi planté de la vigne. Donc je voulais partir de Saint... Enfin, je voulais... À vrai dire, la question que vous pourriez poser, cher ami, c'est comment m'est venue l'idée de partir. J'avais envie de marcher pendant un mois, parce que avoir ce sentiment de liberté totale, et surtout de ne plus avoir la contrainte du boulot, c'est-à-dire... savoir si on a fait beaucoup de couverts, si on a bien travaillé, s'il n'y a pas eu de problème, etc. Je voulais me débarrasser de ça. Et ma fille Pauline, à qui je dédie ce livre, m'a dit « Papa, si tu veux, je travaille avec toi. Et quand tu seras prêt, tu partiras, je resterai à ta place. » Bon, voilà. Ça s'est fait comme ça. Et franchement, le jour où je suis parti, j'étais excité comme un enfant.
Il pleuvait d'ailleurs.
Qui part pour la première fois en vacances. Vous savez, bon, quand on a la chance de faire ce que j'ai fait, j'ai voyagé dans le monde entier. C'est vrai que les voyages, ça fait rêver les gens. Ils disent, on a fait ça. L'année prochaine, on fera le Maroc, on a fait la Tunisie, etc. Moi, j'ai fait des tas de pays. Et partir à pied, pour moi, c'est un véritable bonheur. Et là, on part à pied dimanche avec mes amis marcheurs. Là, c'était... Et donc, je suis parti, mais bien sûr, j'ai des cartes. Bien sûr, j'ai pas mal de bouquins sur la vigne et sur le vin, mais j'ai voulu partir vierge, c'est-à-dire que sans itinéraire, enfin une espèce de route que je me traçais de Bordeaux.
Voilà, je vous montre la carte, hein, voilà, oui. Donc le parcours.
Elle est absolument pas lisible. Mais
hein, bon. On part de Bordeaux, ensuite on redescend, voilà, ensuite on va vers l'Italie, et puis à Rome, de Rome on part en Crète.
Ouais.
Voilà, donc ça fait en tout à pied un peu plus de 400 km.
450 km, mais c'est rien. Les gens disent ça fait beaucoup, mais divisé par 24 jours, ça fait 20 km par jour à peu près. Alors,
juste un instant, on va revenir après à l'histoire des cépages, mais juste un instant à propos de l'équipement et de quand un homme décide de marcher, parce qu'il y a des passages qui sont assez drôles. Et le livre est très très sincère, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une relation intime à Jean-Pierre, il dit les choses, il se rend compte des choses, et c'est très agréable pour cette raison. Et donc, il s'est équipé comme tout bon marcheur qui doit réaliser une sorte de performance, en l'occurrence. Donc, il y a cette histoire de sac qui est assez amusante, hein, ce sac qui pèse très lourd, et puis cette idée de la performance, et qui, à un moment donné, Jean-Pierre va dessiller les yeux et puis se rendre compte que la performance, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de faire tant de kilomètres par jour. L'idée, c'est d'arriver à se libérer finalement de cette idée de performance et d'enfin pouvoir profiter de ce qui est là, des rencontres, du paysage et d'apprendre enfin de ce qui est autour de soi. C'est ça ? J'ai bien compris.
Oui. Hein, Jean-Pierre ? Non, mais bon, quand on part, moi je... Donc j'ai acheté du matériel puisque je partais un mois, donc il me fallait un sac à dos dans lequel je mettais mes petites affaires. Alors je suis allé chez un spécialiste de vente de matériel pour le sport. Et donc là je suis tombé sur une vendeuse extrêmement compétente qui me dit c'est pour faire quoi. Alors bon, je raconte, elle était très admirative, mais elle me dit il vous faut un sac, bon, sac qui soit assez grand. Je lui dis oui, mais pas trop grand quand même, parce que s'il est grand, il pèse. Donc elle m'a donné un sac et... Elle m'a expliqué qu'à gauche, j'avais des poches pour mettre les affaires à manger. À droite, c'était pour la... Elle me dit, là, c'est votre salle de bain, vous avez des trucs à l'intérieur. Enfin, elle m'a fait une description du sac qui était rigolote. Et je lui dis, mais ça va peser lourd. Elle me dit, non, pas plus de 10 kilos. Donc, elle m'a mis 10 kilos de cordage dans le sac. Moi, je me suis baladé dans le magasin à mon sac. Je lui dis, oui, oui, ça va, c'est bon. Et en fait, quand j'ai fait mon sac, j'ai chargé à mort. Donc, j'ai amené un iPad, 3 bouquins, des chaussures de ville... 2 pantalons, une veste pour le soir, etc. Donc j'étais complètement ridicule. Et en plus, elle me donnait une poche qu'on met derrière le sac à dos avec un tube pour boire. Ça, j'ai abandonné le premier jour parce que j'arrivais pas. Et donc, le premier jour, j'ai voulu absolument marcher. Donc j'ai marché 8 heures sous la pluie et j'étais absolument lessivé. Et le deuxième jour, j'ai dit, je suis pas sûr de pouvoir faire cette aventure, donc il faut que je change complètement la façon dont je pratique. Donc j'ai vidé presque la moitié de mon sac, j'ai enlevé cette poche d'eau que je remplissais tous les matins, enfin le matin, qui faisait 2,5 litres, donc ça fait 2,5 kilos de plus.
Et puis c'est la tétée permanente.
Oui, et puis sucer ce truc, moi ça me dit pas. Et je me suis obligé, je me suis dit, j'arrête de déconner, quoi. Je vais pas... marcher 10 heures par jour, tous les jours. Donc je vais enlever... J'avais sur mon iPhone, mes enfants m'avaient mis... Enfin, un de mes fils m'a mis une carte avec une géolocalisation que je regardais sans arrêt. Donc j'ai coupé le téléphone, j'ai vidé mon sac et je suis parti comme ça. Et le lendemain, j'ai dû faire 20 kilomètres au lieu d'en faire 30. Mais la notion de kilomètre a disparu complètement. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'est être... dans des endroits le soir où je décidais la journée de savoir où j'allais dormir. Donc avec un iPhone et une carte bleue, on est les rois du monde, on peut aller partout, on peut appeler un taxi qui vient vous chercher à un endroit et qui vous amène dans un hôtel. Et donc j'ai fait tout mon voyage comme ça.
Et libéré de la performance, hein. C'est pas tout à fait anecdotique, parce que vous verrez quand vous lirez le livre, c'est très très juste, puis ça nous fait aussi réfléchir nous-mêmes à cette course permanente... À quoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, à cette idée de performance qui régit nos vies.
Je viens de lire un truc, alors je veux pas faire Kaufmann, mais en tous les cas, Kaufmann, qui est un ami avec qui je marche souvent, mais Nietzsche dit, il n'est pas utile d'aller vite, il suffit simplement de savoir où on va. Voilà. Et je trouve que c'est vrai, quand on a cette philosophie, quand on marche, je trouve que c'est... génial de tout d'un coup être libéré. On peut s'asseoir, on peut se coucher, on peut écouter les oiseaux, on peut s'arrêter, on peut... Et c'est vrai, il y a des jours où j'ai beaucoup moins marché que d'autres.
Et vous, vous saviez où vous alliez, puisque finalement vous alliez à la rencontre des cépages, mais vous alliez aussi à la rencontre de vous-même et de votre propre histoire. C'est ce qu'on apprend au fur et à mesure de la lecture du livre. Alors, en ce qui concerne les cépages, vous dites de belles choses, hein, alors que vous marchez. Je prends alors conscience d'une réalité qui m'avait échappé jusqu'ici, tant la vigne est un environnement familier. La côtoyer de si près m'ouvre les yeux. Je sais finalement peu de choses. Pendant des années, je n'ai fait que survoler le sujet, faisant celui qui connaissait, goûtant une foule de vins, mais sans vraiment m'intéresser à cette plante. Au contraire, tout en marchant, j'ai la sensation de faire corps avec la vigne qui va guider intimement mes pas, mes découvertes. Je réalise que ce territoire ne serait rien sans les cépages anciens qui, victimes du temps, ont été rayés de la carte. Or, ils sont au centre de l'histoire du vignoble bordelais, des bénédictins, mais plus largement au centre de tous les vignobles que vous allez traverser. Donc, y a un mot, c'est l'empélographie, un mot qu'on n'utilise pas, qui est presque, vous le dites aujourd'hui, surtout ne pas utiliser ce mot, hein, ce qui est la science des cépages, qui est une science absolument merveilleuse. Est-ce qu'on peut en dire deux mots de
cette
science ?
C'est une question.
Oui, c'est une question.
Alors, l'idée, c'était de partir marcher. Ça, c'est la première envie qui était très forte chez moi. Après, il faut qu'il y ait une justification, entre guillemets, quasi, professionnelle. Pour ma famille, ils étaient très, très contents que je puisse partir marcher et ils m'ont aidé. Mais après, moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose à raconter ou de trouver une histoire à raconter. Et l'histoire à raconter, c'est les cépages. Moi, je suis dans un milieu où le vin a une grande importance. Je connais beaucoup de viticulteurs. J'ai eu l'occasion pendant... et encore maintenant, de parler du vin, de parler des cépages, de parler des grands châteaux, de parler des... Je me rends compte que quand on s'approche du micro, vous entendez mieux ?
Oui. C'est un métier, hein ?
Eh oui.
Un métier.
Et donc, je me disais que l'histoire des cépages était intéressante et que les cépages bordelais, en tous les cas, avant le phylloxéra, il y avait 53 cépages. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Les cépages bordelais ont été plantés, ou en tous les cas, les Romains nous ont aidés à cultiver la vigne. Et les Romains sont présents dans tout notre environnement ici, même, bon, on parle toujours d'ozone, mais il n'était pas le seul. Mais c'est vrai que la ville a été romaine et le vignoble a été romain aussi. Et donc les Romains avaient une façon de faire du vin qu'ils aromatisaient. D'ailleurs, enfin, malheureusement ou heureusement, j'ai eu l'occasion d'en goûter pendant ce voyage, qu'ils aromatisaient avec soit de l'eau de mer, soit du miel, soit des produits, des épices, etc. Mais les Gaulois, eux, buvaient du vin pur. C'est peut-être ce qui a fait d'ailleurs une des clés de la réussite du vignoble bordelais. En tous les cas, les cépages ont été plantés par les Romains, mais si on lit un peu l'histoire du vin, ces Romains-là ont pris des cépages aux Grecs. Donc je me disais qu'en fait, mon voyage, il allait se justifier... un peu la France, enfin beaucoup la France d'ailleurs, un peu l'Italie et un peu la Grèce. Et forcément, la Grèce, il fallait que je termine en Crète, puisque c'est aussi le berceau de la viticulture. Mais ça tombait bien, puisque mon nom est d'origine de Crète. Donc voilà, le cheminement, il s'est fait avec un intérêt pour la vigne. Et j'ai appris plein de choses. Et sur les cépages originels, il y a plein de viticulteurs qui, aujourd'hui, dans d'autres régions que Bordeaux, ont trouvé des cépages anciens qu'ils ont replantés. C'est le cas de Gaillac, où ils font des vins absolument merveilleux, des vins qui ont de la personnalité. Finalement, nous, aujourd'hui, on est à Bordeaux, en tous les cas, quand je dis « on est confronté à quasiment un goût unique. C'est pour les gens qui connaissent un peu le vin, c'est le goût de Parker, qui était un excellent dégustateur, qui a fait la notoriété et les prix des vins de Bordeaux. Mais le goût de Parker, c'est de concentration maximum, des arômes très présents, très puissants, de la couleur, un boisé qui est toujours bien, 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 bien mis. Enfin, qui n'est pas toujours bien mis, d'ailleurs, c'est pas là. Et voilà, le type de vin que Parker a mis en avant, c'est un certain type de vin qui correspond au grand cru. Il faut qu'il y ait un sol qui soit adéquat, etc. Le problème, c'est qu'il y a plein de... C'est ce que j'ai écrit aussi dans le bouquin. Il y a plein de petits propriétaires qui veulent faire comme les grands. Et il y a d'Outreland, en 76, qui a écrit que les Bordelais avaient le syndrome de Panurge. C'est-à-dire que c'est dommage que sur des petits terroirs, les gens veuillent faire extraction maximum. Et on perd le goût, finalement, du terroir et de la caractéristique du terroir. Et donc, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon cheminement, j'ai rencontré... Mais tout, c'est pas véritablement un hasard, puisque je suis allé vers eux. En tous les cas, je rencontre des gens qui ont alimenté mon savoir et aussi qui ont alimenté ma curiosité. Et j'ai trouvé des gens comme Plajol à Gaillac ou Vérac à Cahors, des gens qui ont un vrai questionnement sur l'utilité d'avoir des cépages locaux, sur l'utilité de ne pas faire des vins très extraits, sur l'utilité évidemment de ramasser mûrs et de faire des bons vins. Il y a eu énormément de programmes en matière de viticulture à Bordeaux depuis que je fais ce métier. Mais c'est vrai qu'autrefois, moi, quand j'ai commencé, on buvait des Léoville-Lascaze 62 ou 61 qui étaient très touché par des vieilles barriques, et bon, on disait que c'est le goût de terroir, etc. Les vins ont beaucoup évolué. On fait des très bons vins aujourd'hui, mais il y a des terroirs qui ne peuvent pas faire de grands crus, donc il faut rester modeste. C'est ce qu'a fait Plajol. Il appelle ses vins des vins modestes. Ils ont même fait une association de viticulteurs de vins modestes, et je trouve ça assez beau que des viticulteurs et envie de proposer des choses qui sont réelles et authentiques, enfin, qui correspondent au terroir sur lequel ils vivent.
Parce qu'à propos de Parker, vous dites qu'il a offert à Bordeaux une autorité extraordinaire. Dans cette dynamique, le vin s'est considérablement amélioré. Parker possède en effet, ce qui est vrai, un palais exceptionnel. Et ses notes récompensent les meilleurs viticulteurs. Mais en même temps, les œnologues ont fini par apposer leur empreinte, celle de leurs écoles. Et c'est vrai que désormais, les winemakers stars fabriquent des vins pour un peu tout le monde et qu'il y a quelque chose qui devient en effet uniforme. Vous, Jean-Pierre, quel est le cépage qui vous a le plus surpris? Est-ce qu'il y a un cépage en particulier d'un vin que vous auriez goûté qui vous a vraiment surpris? Ou pas un en particulier?
Non, mais bon, il y a le Mosaque Le Mosaque de Plajol qui est extraordinaire parce qu'il a trouvé... Alors bon, après, il a une façon de raconter l'histoire qui est... C'est un conteur, il a 84 ans, c'est un patriarche, il est drôle comme tout, c'est un monsieur qui est grand, costaud, qui a une voix comme ça, très rocailleuse. Il me dit, mais tu sais, moi, le cépage là dont on parle, je l'avais au pied de la grange, je l'avais même pas vu. Je regardais cette vigne, et un jour, mais je me suis penché dessus avec un ingénieur agro, on a regardé, on a fait venir les mecs de l'INAO, on a regardé, mais c'était un cépage qui avait complètement disparu. J'avais 4 pieds, là. Donc, ils ont greffé, ils les ont replantés, et maintenant, il y a, je ne sais pas combien de viticulteurs à Gaillac qui ont planté ce cépage. Je trouve ça assez merveilleux.
Il y a une scène qui est d'ailleurs très touchante, où quand vous arrivez chez ce viticulteur, vous avez très soif. Et puis, il vous dit, ben, tiens, prends un verre. Et puis, non, je ne bois pas d'alcool. Si, c'est pas de l'alcool, c'est pas du vin. Quelque chose comme ça. Et puis, donc, Jean-Pierre prend le verre à deux mains, mais comme un enfant. Et puis, il boit son Mosaque comme ça pour se rafraîchir. Même un deuxième, hein, il me semble. Même un deuxième. Mais comme s'il s'agissait d'une boisson comme de l'eau, quoi. Comme quelqu'un qui aurait trouvé une source après une traversée du désert.
J'avais très soif.
Ouais, mais la scène est très joliment décrite. Parce que ce qui est aussi très beau dans ce livre, c'est ces moments d'amitié, ces moments de rencontre, ces moments de fraternité aussi, parfois, autour de cet amour de la vigne, autour de cet amour des cépages, et plus généralement, cet amour et le respect de la terre.
Mais j'ai rencontré un viticulteur que je connais dans les Corbières, vous verrez, pour ceux qui vont lire le livre, il s'appelle Philippe Courian, qui lui est un sacré viticulteur et qui a toujours dit que les Bordelais, mais beaucoup de viticulteurs, mais ça, on en parle maintenant avec l'utilisation des pesticides, le scandale que ça a fait autour des écoles. Ils ont toujours utilisé des produits comme ça. Bien sûr, aujourd'hui, on utilise des produits pour développer la production, c'est-à-dire que pour faire finalement plus de chiffre d'affaires et un peu plus de produits. Mais Philippe Courian, qui est un viticulteur qui est dans les Corbières, mais il avait une propriété dans le Médoc, qu'il a laissé à ses enfants, et c'était sa propriété s'appelle Taureau-Cossan, Alors c'est un vin qui est quand même assez connu parce qu'il a défrayé la chronique dans les années 85. C'est un vin qui a été comparé à des grands crus à l'époque, tellement c'était bon. Et Philippe a laissé sa propriété à ses enfants dans le Médoc. Et il est parti parce qu'il était agacé par le comportement des propriétaires qui l'entouraient. Il est parti se réfugier dans les Corbières. Il a acheté 30 hectares. Il a vendu 2 hectares dans le Médoc. Et avec les 2 hectares, enfin, avec l'argent des 2 hectares, il a acheté 30 hectares dans le. Voilà. Il a fait effectivement une propriété qui est magnifique. Dans un petit village, il y a une rivière. Qui fait le tour de sa propriété, c'est absolument magnifique. Mais il dit que la terre est morte sur. Mais il n'est pas le seul, parce qu'après, il y a plein de scientifiques qui le disent. On a tué la terre sur plusieurs mètres. Il n'y a plus de vie végétative, animale, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien qui se passe dans la terre. Et aujourd'hui, le souci, c'est ça. C'est qu'on met des médicaments dans la terre pour qu'elle donne des éléments à la vigne, et on donne à la vigne des produits pour qu'elle puisse résister aux maladies. Donc on n'est pas du tout dans le vrai. Alors bon, il y a des gens qui disent, mais ce n'est pas moi qui l'invente. J'ai lu pas mal de trucs, il y a des scientifiques qui disent que les grands crus du Médoc et de Bordeaux sont quasiment des vins qu'on fait hors sol, quoi, comme ce qu'on voit. Donc aujourd'hui, il y a une prise de position des propriétaires bordelais, puisqu'il y a eu ces scandales de l'utilisation des pesticides. Et aujourd'hui, on revoit dans les vignes, pour les plus riches, parce qu'il faut quand même avoir les moyens, on voit des chevaux et les gens ont tout d'un coup le souci de la terre.
Alors mais parfois, c'est du marketing quand même. Hein.
Oui, non, mais c'est surtout du marketing. C'est grave de prendre des gens pour des imbéciles. Et moi, quand je me balade dans la vigne, je suis capable de vous dire combien il y a de pieds à l'hectare, quel est le cépage. C'est assez difficile à reconnaître. Mais on voit une vigne qui est bien soignée. Et je peux vous assurer que d'un rang de vigne à l'autre, on voit si la vigne est en bonne santé, si elle est bien taillée. Moi, je dis souvent si elle est bien peignée. Quand vous voyez des vignes bien peignées comme ça, je trouve ça génial. Après, il y a des vignes qui ne sont pas entretenues et qui font forcément du mauvais vin. À partir du moment où vous voyez la vigne, vous savez très bien comment va être le cuvier.
Alors à propos des cépages, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous vous intéressez un peu aux cépages. Je ne me rappelle plus le nom de cet homme qui était un spécialiste des cépages, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Et c'est des catalogues magnifiques de plantes avec des noms merveilleux.
Des jolis dessins. Oui.
Qui nous emmènent dans le monde entier. Alors là, on a évoqué le Mosaque de Gaillac, Bianco Gentile de Corse, Bourboulinque, Ribérinque, Grenache Gris, Fier Gris, Gros Mansin, Saint-Mont, Rava, etc., etc. Ce sont quelques-uns des cépages croisés. Vous en avez croisé combien sur le chemin, en fait?
Je n'ai pas compté.
Vous n'avez pas compté?
Non. Mais pour ceux qui s'intéressent, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un bouquin sur les poires. Le nom des poires est absolument poétique et c'est vraiment joli. Si j'ai un autre enfant, je l'appellerai d'un nom de poire.
Ça n'a pas réussi à la marque Renault, hein, qui avait donné donc un nom de poire à l'une de ses voitures. C'était la Renault 14 il y a longtemps.
Oui.
Ça a été un échec marketing assez cuisant. Personne ne voulait rouler
c'est
en poire.
C'est la fête du vin. Hein. Vous y êtes allé à la fête du vin.
Bravo. Alors, on va continuer de cheminer avec Jean-Pierre. Donc, c'est un voyage qui part d'ici, de l'Entre-deux-Mers, 400 km à pied, avec à la fois des objectifs et des détours, et puis des rencontres. On a cité quelques-unes des personnes que vous aviez vraiment envie de rencontrer, et puis d'autres que vous avez peut-être rencontrées aussi ou croisées par hasard.
Oui, le mec qui fait des vins romains, là.
On peut en dire deux mots?
Oui, oui. J'étais à Beaucaire. Alors Beaucaire, c'est une ville du sud qui est complètement jumelée quasiment à Tarascon. Alors c'est joli, là, on arrive dans le sud, on sent. Puis quand on marche, on a le sentiment. Alors il y a plein d'auteurs, et pas des moindres, qui ont écrit des livres sur la marche. Il y en a beaucoup. Bernard Olivier qui a fait la route de la soie. Et Bernard Olivier, dans sa route de la soie, lui, il double des journées. C'est-à-dire, il y a des journées où il fait 60 km. Lui, il faut qu'il trace la route. Après, Axel Kahn, il a écrit sur les chemins de Saint-Jacques. Non, lui, il a traversé la France. Ruffo, il a fait les chemins de Saint-Jacques.
Il y a aussi aujourd'hui... Olivier Blaise, qui est un Bordelais aussi, qui marche beaucoup, qui a écrit sur la marche.
Ah, ça m'intéresse.
Oui. Ouais. Ouais, ouais.
Donc j'ai lu Stevenson et tout ça. Il y a des gens qui vous amènent à la rêverie, rien que... Bon, après, bon, vous avez tous les grands auteurs anciens qui ont écrit aussi sur la marche. Mais la marche est vénérée comme quelque chose de sain et de... mais qui vous met dans une position psychologique qui est assez intéressante dans la mesure où vous avez fait 7 ou 8 ou 10 kilomètres. Dès qu'on commence à, sinon à souffrir, au moins à être dans le mouvement, quand on a attrapé le bon rythme, tout d'un coup, vous avez l'esprit qui s'envole et ça vous permet d'avoir avec... pas mal de clairvoyance, de voir des choses que vous n'aviez pas vues ou dont vous n'aviez pas pensé. Mais la marche a ceci de bon. Après, il y a la marche avec les copains, où on n'arrête pas de déconner, on est là avec les uns, avec les autres. Bon, on chahute, on discute, mais c'est aussi sympathique. Mais je me disais qu'en arrivant à Beaucaire, j'avais l'impression d'être dans le sud. Et cette impression, vous l'avez pendant des kilomètres, parce que j'ai suivi un petit canal dans les Alpes. Alors bon, je le dis dans le bouquin, ça m'a fait penser à Pagnol, avec Dans la gloire de mon père, où le papa a une clé pour passer les différentes portes. Et c'est vrai que ça vous amène à une espèce de rêve comme ça, qui est assez rigolo. Et donc, j'ai suivi ce canal pendant 3 ou 4 kilomètres. 3 ou 4 kilomètres, ça fait presque une heure, quoi. Je trouve que c'est ça que la marche amène, c'est... cette espèce de déplacement qu'il peut y avoir par rapport à la vision ou à des choses.
Et alors, ça, c'est d'un point de vue intellectuel. Puis un jour, vous m'avez dit quelque chose, Jean-Pierre, moi, qui m'a marqué, c'est que quand on marche aussi, au bout d'un moment, on se sent. Enfin, au sens, ça peut paraître un peu trivial comme expression, mais en même temps, c'est une belle image, je trouve, pour dire à quel point on se retrouve aussi, ou on se trouve dans le fait de marcher.
Oui, on se sent d'abord tous les muscles.
Oui, c'est pour ça.
Mais aussi, je parle dans mon bouquin de sa propre odeur. C'est-à-dire que, on passe notre vie à nous frotter, à nous nettoyer, à nous gratter sous les bras et à se gratter les pieds, et pour pas sentir ce qu'on est en réalité. C'est-à-dire que l'odeur des gens, elle n'est pas forcément nauséabonde. Il y a des gens qui sentent bon. Ma femme me dit toujours, j'adore ton odeur. C'est un peu intime, excusez-moi.
C'était pas sur ce chemin-là que je voulais vous emmener, Jean-Pierre.
Mais non, mais
tout le monde aura compris.
Je sais pas quel est le. Il y a des poètes qui ont écrit là-dessus, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on se sent parce que voilà, on est avec son propre corps. On n'est pas dans un environnement où il y a d'autres gens, où on s'épie, on se regarde, comment on est habillé, ce qu'on fait, etc. Ça, la tenue aussi. Je sais pas si j'en parle, mais. Moi, j'essaie d'être le plus normal possible, mais surtout pas déguisé. Le mec qui sort de chez... Comment ça s'appelle les gens qui vendent des trucs de sport. Je trouve ça ridicule.
Ah oui, les gens qui... donc.
Mais les gens, ils ont des tenues pour les activités qu'ils ne font pas. Donc, il ne faut pas déconner.
Qui est-ce qui a une tenue magnifique pour faire du vélo fluorescente Non, ah. Personne. Pour marcher,
mais non,
est-ce
mais
que
on
vous
a
mettez...
fait des gens normaux, là. Non, mais je trouve ça... débile, ils achètent des tenues pour faire des trucs qu'ils ne font pas. Alors, vous les voyez, ils font du vélo sur la piste, la Pébi, là, mais bon, plus ou moins, ils font du roller, ils achètent la tenue du roller avec les trucs. Ils vont faire ça pendant 4 jours, après ils vont arrêter, ça va aller dans un placard. Moi, je marche avec mes mocassins le matin et mon pantalon et ma chemise. Bon, voilà. Mais Beaucaire, donc j'arrive à Beaucaire, je me dis, là, je suis dans le sud. Et c'est vrai que le sud, ça chante un peu. On a... Bon, il n'y avait pas encore les cigales, mais il y a l'accent des gens, etc. Et j'arrive à Tarascon et je vais à Beaucaire. Beaucaire, c'est aujourd'hui une ville où il y a beaucoup de Maghrébins. Bon. On est au sud. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et là, à Beaucaire, il y a un viticulteur qui fait du vin romain. C'est-à-dire qu'il a eu la chance... d'avoir une propriété ou d'acheter, ou je ne sais pas si c'était de ses parents, sur un site qui était gallo-romain. Donc il a mis en valeur et il a fait un cuvier romain, donc avec un pressoir romain. Et ces mecs vendangent en toge Et donc, évidemment, il a eu plusieurs émissions. Mais c'est drôle. Mais oui, oui, mais il a eu plusieurs émissions de télé. Et il fait du vin, donc, sur des recettes de Columel, qui est un auteur romain que j'ai lu. Il a fait du vin suivant des recettes romaines de l'époque, avec des épices, avec des aromates, avec du miel, avec des trucs. Et il vend du vin romain. Et il n'y a pas très longtemps, nous, au restaurant, il y a des gens qui voulaient faire un repas romain. Bon, après, on a des demandes parfois qui sont rigolotes, mais en tous les cas, c'était une historienne, elle voulait faire goûter de la cuisine romaine à ses élèves, ou je ne sais pas qui. Et j'ai dit à ma fille, mais on va commander du vin romain. Elle m'a dit, papa, arrête, tout le sort en verre.
Alors cet homme s'est Hervé
Durand. Et on a commandé du vin romain. Et le mec, il vend les bouteilles, 50 € la bouteille. C'est-à-dire qu'il fait du vin blanc. Bon, il a il a des vignes, ce qu'on appelle les vignes en autun, ce qui était l'origine de la vigne. La vigne, dans le Caucase, il y a 6000 ans, ça poussait dans les arbres. Mais vous voyez, la marche, tout ce que je dis là, je ne le savais pas forcément avant, mais la marche et cette aventure m'a amené à me poser des tas de questions. Parce que, franchement, là, on est dans un livre ouvert, c'est-à-dire que sans se presser, sans prendre de notes, sans avoir de carnet, il y a des tas de trucs qui me sont venus à l'esprit parce que j'ai rencontré le mec qui fait des vins romains. Je dis, je vais quand même lire des trucs pour savoir.
Alors je donne son nom quand même, c'est Hervé Durand, hein, au cas où. Hein.
Ah, il n'est pas là non plus.
Il n'est pas
là. Bernard Magret, il ne viendra pas de toute façon.
Donc voilà, donc vous dites qu'il a inventé une astuce folklorique et touristique, qui s'est bien débrouillé, qui gagne de l'argent, peu importe. Il a été très bon, il sait se vendre, il a récupéré ses vestiges, mis en scène quelques belles pierres pour en composer une histoire assez jolie et qui fonctionne, reconstruire une exploitation romaine. Tout y est, le pressoir très grand, un jardin à la romaine, les amphores, des chais, des ateliers de potiers gallo-romains, des plaques explicatives, un film d'information, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites à propos de la vigne, c'est-à-dire que la vigne qui pousse comme ça, et il y a le terme qui est utilisé, je ne sais plus par qui, la vigne, elle est indocile. Elle est,
c'est Philippe Courrier.
Et ça, c'est une très belle chose, parce qu'on imagine, nous qui voyons les vignes, et si on ne s'y connaît pas, que finalement, la vigne, elle est bien taillée, tout est au cordeau, tout est absolument formidable sur nos terroirs, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Elle est sauvage, la vigne. Elle se rebelle. C'est une liane.
C'est une liane, hein.
Et c'est ça. Et elle pousse entre elles. Et c'est vrai que ce livre nous rappelle ce qu'est au départ la vigne.
Mais les Romains cultivaient la vigne dans les arbres. Et ben, aujourd'hui, on parle de permaculture et d'agroforesterie. Bon, c'est des trucs qui reviennent, que ce soit à la télé ou dans les bouquins. Mais il faut savoir que nous, dans le Bordelais, les gens plantaient des légumes entre les rangs de vignes. Les viticulteurs, mais pas les grands crus, mais et encore que. Mais en tous les cas, jusqu'à dans les années 50, vous aviez dans les vignes des tomates, des fèves, des asperges, trucs. Et ça donnait les éléments nutritifs pour la terre et inversement des éléments pour la vigne. C'est-à-dire que la vigne était en bonne santé, mais ça se fait plus depuis les années 50. Et les vignes en treille et les vignes en autun, comme en Italie. En Italie, vous avez un village, dont je ne me souviens pas le nom, où ils font les vendanges avec des échelles sur les arbres. Et nous, on avait chez nous, enfin chez nos grands-parents, des vignes en treille. On avait des treilles partout. Il y a ici la rue des Treilles, il y a la rue des Vignes. Bordeaux était autour de l'abbatiale de Sainte-Croix, il y avait de la vigne. Donc ces modes de culture qu'on retrouve en Grèce, en Crète, parce que quand je suis arrivé en Crète, on n'est pas encore là, mais...
Il faut qu'on y aille.
Quand je suis arrivé en Crète, dans un hameau, il y avait des treilles et des treilles partout. Et ils étaient en train de faire du vin. Donc là, j'ai goûté ce dernier vin que je goûte. J'ai goûté un vin, il y avait une petite cuve en ciment, il y avait un gamin avec un bâton qui remuait le raisin, finalement, et il m'a fait goûter le vin. Et j'ai trouvé que c'était le plus beau vin de ma vie. Et donc, c'est vrai, après, je pense qu'on a des exigences par rapport au vin, mais comme sur beaucoup de choses, on a toujours envie d'avoir le mieux possible quand on a la culture. Le vin, aujourd'hui, les gens vous disent, mais... Quel est le meilleur vin ? Et moi, j'ai envie de leur dire, mais démerde-toi, apprends. Va goûter, va voir les propriétés, rencontre des gens. Le meilleur vin, ce sera celui que tu aimeras au moment où tu vas le déboucher.
Et
la
avec
bouteille.
Qui et
parce
avec
que
qui
tu es avec un ami et parce que tu vas passer ou avec ton amoureuse ou avec. Les vins, ils peuvent être merveilleux, même s'ils sont. Moi, Philippe Courian, que j'ai amené au Mont-Athos. Le Mont-Athos, c'est une autre partie de ma vie. Le Mont-Athos, c'est certains connaissent, une péninsule dans le nord de la Grèce. De 80 km sur 15 km de large, où il y a 30 monastères orthodoxes. Et là, c'est interdit aux femmes, grâce à Dieu, elles sont majoritaires. Là. Non, je plaisante. En tout cas, c'est interdit aux femmes. C'est des monastères orthodoxes, il faut un visa pour y aller, c'est très compliqué. Mais moi, j'y suis allé, je pense que je suis un des, vraisemblablement, le Français qui est allé le plus, j'y suis allé 9 fois. 9 fois, parce que. C'est un endroit qui me plaît, c'est un endroit qui est retiré de la vie, de notre vie contemporaine. Eux, ils prient. La journée est divisée en quatre temps. 6 heures de prière, 6 heures de messe, 6 heures de dodo et 6 heures de travail.
Et un petit peu de temps pour boire du
vin. Et la messe dure 6 heures. Je peux vous assurer. Elle commence à minuit. Minuit, 6 heures du matin. Et là, eux, ils sont viticulteurs. Certains moines font du vin. Et on boit évidemment des vins qui sont des vins qui vous servent en pichet, comme ça, pour l'heure du repas, qui dure 7 minutes le repas, il n'y a pas très longtemps, mais ils servent du vin. Et j'étais avec Philippe, le viticulteur du Médoc, et il a bu un verre de vin qui était limite acidité volatile, c'est-à-dire ça se rapprochait plus du vinaigre que du vin. Mais ça avait un goût fruité, c'était un vin très jeune, un vin de l'année certainement. Et Philippe avait les larmes aux yeux et m'a dit. Mais qu'est-ce qu'on est con. Il me dit, pour moi, c'est le plus beau vin que j'ai jamais bu de ma vie. Et donc, c'est ça aussi le vin. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de boire en permanence des grands crus ou des vins qui coûtent cher. Je pense que le vin dans une propriété, avec tous ses défauts, si vous êtes dans un contexte qui est un bon... Soit avec des amis, même seul, je pense que... Il faut aussi aimer les gens et les choses par leurs défauts, pas que par leurs qualités. Voilà, on a des exigences qui sont complètement décalées par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Et je pense qu'un bon défaut chez quelqu'un, ça peut être très sympa.
Alors vous imaginez, ils sont installés sur des tables en marbre du XIIe siècle, avec les coudes qui ont marqué à force. Voilà. Donc il y a les marques des coudes sur cette table. Et Jean-Pierre écrit, nous avons bu un vin qui dégageait, comme il l'a dit, un peu d'acidité volatile, à la limite du vinaigre. Philippe est resté comme paralysé, le nez dans le verre, presque les larmes aux yeux. Il n'écoutait pas les psaumes récités par un moine pendant que nous mangeions dans le silence. Je lui ai ensuite demandé qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, c'est le plus beau vin de ma vie, a-t-il répondu. Je cite souvent cette réflexion, parce que si le vin est essentiel, de même que sa qualité intrinsèque, sa maturité, les techniques, la scène, le contexte, ce qu'il déclenche en vous joue un rôle capital. C'est ce moment, pas un autre. Boire un verre avec quelqu'un qu'on aime, un instant précis peut devenir un enchantement, un souvenir extraordinaire. C'est ça aussi le vin. Et c'est vrai ce que vous disiez, c'est-à-dire que le vin, finalement, aujourd'hui, on a une approche très théorique, hein, très... journalistique d'une certaine manière, et que le vin il s'apprend au contact des autres et il s'apprend aussi au contact des viticulteurs et au contact de la terre. C'est d'où ce voyage qui nous en apprend beaucoup et qui en a appris beaucoup aussi à Jean-Pierre qui pourtant fréquente des viticulteurs depuis de nombreuses années et pas des moindres. Il y a eu Gaillac, le Minervois, la Provence, le comté de Nice et puis quelques mots sur l'Italie.
Ben, l'Italie, je voulais... Alors, j'ai fait le vignoble de Cinque Terre. Hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La Ligurie, c'est dans le nord de... Enfin, c'est après Nice, hein, Menton, tac, et on arrive. Il y a un vignoble qui est en espalier, qui est très, très beau. Il y a eu pas mal d'émissions de télé dessus. Je voulais absolument y aller. Et je suis arrivé là. D'abord, l'entrée du vignoble était payante. Donc il y avait une porte, parce que bon, c'est un immeuble, un vignoble qui est en Espagne. Et donc j'ai marché sur ce vignoble qui est absolument prodigieux. Il est au-dessus de la mer comme ça, c'est très beau. Mais alors j'étais suivi par des Japonais derrière, des Allemands qui me croisaient avec des sacs à dos. Donc ça m'a vite agacé. Donc j'ai pris le bateau et je suis parti jusqu'à Luc. Et là j'ai repris la Via Francigena qui est une voie de pèlerinage qui arrive d'Europe du Nord et qui va jusqu'à Saint-Pierre-de-Rome. C'est un très vieux pèlerinage, Mais le problème de la Via Francigena, un peu comme le problème des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, pas en France, parce que c'est souvent sur le bord des routes. Et vous traversez des lieux d'urbanisation, et ça, franchement, moi, je ne supporte pas. Donc, j'ai fait la Via Francigena pendant 3-4 jours, mais après, je suis allé dans le Chianti, et j'ai fait des petits chemins, des petites routes. C'était beaucoup plus agréable pour moi. Mais je ne suis pas pour... aujourd'hui, je sais que dans beaucoup de dîners mondains, on parle de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est à la mode. C'est bien que les gens marchent. Mais je pense que marcher dans des endroits qui sont beaux et tous les soirs se retrouver à 20 ou 30 dans des refuges, moi, c'est pas mon truc. Donc, bon, on a la chance en France d'avoir des chemins de randonnée, mais il y en a des milliers de kilomètres. S'ajoutent à ça les boucles de pays et les boucles de villages. Donc, on peut faire toute la France à pied. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Et c'est vraiment sympa, enfin, en tout le cas, moi, d'être à contre-courant et surtout pas derrière une foule de gens. Donc, en Italie, je suis vite parti. Mais j'ai aussi voyagé d'une façon particulière parce que quand j'avais fini ma journée de la Via Francigena, je m'arrêtais dans un village ou une petite ville où il y avait le train. Et donc, je prenais mon sac à dos, évidemment. Je prenais le train, j'allais à Florence. J'allais dans un hôtel à Florence. Je défaisais mon sac à dos. Je remettais mon pantalon à peu près propre. Et je mettais une chemise et je faisais touriste. J'allais bouffer au resto, je revenais dormir. Et le lendemain, je reprenais le train et je reprenais mon itinéraire à pied où je l'avais laissé. Donc, j'ai visité Luc.
Et il a même tapé dans l'œil d'une bonne sœur.
Ouais.
N'est-ce pas, hein?
Oui, j'ai dormi dans des monastères aussi, parce qu'il faut savoir que les monastères ont l'obligation de recevoir les pèlerins. Donc, évidemment, si vous arrivez en touriste en disant on a réservé une chambre, on écrate, je pense que ça ne marchera pas. Mais moi, j'arrive dans un monastère en Italie, il pleuvait, et donc je tape à la lourde porte, une bonne sœur m'ouvre, et elle me dit, c'est pourquoi? Je lui dis, ma sœur, je voudrais de l'hospitalité. Alors elle me dit, asseyez-vous là. Bon, elle était occupée, elle faisait des trucs. Alors elle vient vers moi, alors c'était une petite bonne femme, elle faisait 1m50, donc 80 kilos, elle était toute ronde, avec un joli visage. Et elle me dit, mais vous, pourquoi vous venez là? Elle me dit, je dis, ma sœur, pour dormir, mais aussi pour réfléchir, pour méditer, puis pour penser à ma famille. Elle me dit, mais vous faites quoi? Mais je dis, je marche. Ah, elle me dit, vous marchez sous la pluie. Mais je dis, ma sœur, je marche aussi quand il fait beau. Mais là, il a plu toute la journée. Ah. Elle me dit, mais vous arrivez d'où? Alors je raconte un peu. Ah, on me dit, c'est bien, mais vous avez quel âge? Oh, je lui dis, ma sœur, je suis plus âgée que vous, certainement. Alors elle me dit, mais moi j'ai 62 ans. Je lui dis, ma sœur, moi j'ai 70 ans. Elle me regarde et me dit, lève-toi. Alors je me lève, mais tu es magnifique, elle me dit.
C'est une très très jolie.
Elle était touchante, elle était mignonne.
Très très jolie scène.
Et donc elle me dit, tu vas aller à la messe. Hein. Je lui dis, non, ma sœur, je ne vais pas à la messe. Le village, c'est San Gemignano. Donc, c'est un très, très touristique. Je lui dis, il y a plein de monde. Je n'ai pas envie d'aller à la messe. Je veux aller aux Vêpres, dans votre monastère. Elle me dit, on n'est que trois. Elle me dit, les autres, elles ont été assassinées. On les a égorgées. Vous savez, les sœurs bénédictines qu'on a égorgées en Afrique, ça faisait partie de ce monastère. Elle me dit, on n'est que trois. Ce n'est pas intéressant. Mais je lui dis, si, ma sœur. Alors, je suis allé aux Vêpres. Et alors, il y avait une très, très âgée qu'elle transportait, il y avait trois sœurs et une plus jeune, mais alors elle, ma copine, elle me faisait des clins d'œil. Elle chantait, c'était génial. Mais dans les monastères, on peut passer du temps, on peut être reçu, on peut faire comment on appelle ça ?
Des retraites. Des retraites. On fait encore un petit bond, et puis donc on arrive en Crète. C'est à la fois la fin du chemin et aussi le début d'autre chose. Ça, vous le découvrirez dans le livre. Quel souvenir vous gardez de ce moment en Crète?
Oui, il fait soleil, c'est beau, la Grèce, moi j'adore, mais c'est Après, moi, je ne suis pas attaché à ça, donc je ne cherche pas des parents en Grèce, ni des cousins, je m'en fous. J'ai fait ma vie, j'ai ma famille, c'est ce que j'ai écrit dans le bouquin, mais en tous les cas,
le Saint Graal.
Le nom, il est grec, ça c'est sûr, donc j'ai des origines grecques, donc j'ai forcément un arrière-grand-père qui était grec, puisque mon grand-père est venu en France. Et ça me gratte quelque part, parce que j'arrive à la fin de ma vie, je me dis... faudrait au moins que je lègue ça à mes enfants. En tous les cas, dans les enfants, j'ai 4 enfants. J'ai une de mes filles, la plus jeune, celle qui travaille avec moi maintenant, qui, elle, est complètement grecque. Elle a fait... quand elle était au lycée, elle est allée faire un stage en Grèce pendant un mois, je crois. Après, elle a fait sa troisième année de Sciences Po à Athènes. Quand elle a fini ses études, elle a travaillé à l'ambassade de France à Athènes. Et elle veut repartir en Grèce, s'installer en Grèce dans une île où j'y étais il y a 15 jours. Mais elle a vraiment la fibre grecque, c'est-à-dire que ça a sauté 2 ou 3 générations. Mon père ne m'a jamais parlé de la Grèce, jamais. Parce que, bon, la culture n'était pas la même, mais jamais il a revendiqué quelque atavisme que ce soit. Je pense qu'il avait honte du nom. Mais moi, j'habitais dans un quartier espagnol, et je peux vous dire que ça peut l'Exiradakis, avec les Garcia, les González et les... Ils se foutaient bien de ma gueule, mais c'est vrai. Mais en tous les cas, c'était difficile. Mais là, je me disais, c'est l'endroit où mes ancêtres ont vécu. Et je suis allé dans un cimetière où, effectivement, Pauline, ma fille, m'avait écrit en grec mon nom. Et là, il y avait 5 ou 6 tombes de Xiradakis. Donc, je suis allé au bistrot, qui est une épicerie... taverne pompe à essence, et je lui ai montré ma carte d'identité. Et le mec, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, moi, Xiradakis, mais il m'a amené derrière, en terrasse, il y avait 5 ou 6 vieux grecs, et lui, Xiradakis, lui, Xiradakis, lui, Xiradakis. Il y avait un pop qui était là, Xiradakis.
L'île d'Exiradakis.
Oui, non, c'était un village. Ouais.
Et le voyage se termine comme ça. Ce voyage... que vous avez mûri, que vous avez désiré pendant si longtemps, une fois dégagé de l'emploi du temps très chargé que vous aviez. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce qui vous reste de ce voyage, à part le livre?
L'envie de repartir.
L'envie de repartir. Ouais. Ben, c'est peut-être la meilleure réponse.
J'ai envie d'avoir la même aventure que ça, mais dans les forêts, voilà. Et je veux... Donc, pour apprendre, parce que... Bon, évidemment, j'ai acheté plein de bouquins sur les arbres, etc. Enfin, moi, en tous les cas, je ne connais rien du tout. Je sais reconnaître un chêne d'un pin, mais juste... Mais non, mais le monde de la botanique est formidable. Et vivre dans une forêt pendant un mois, en fait... Alors, ça, c'est mon envie, c'est-à-dire me barrer dans une forêt, écouter les oiseaux, on entend des oiseaux, on ne sait pas ce que c'est. On voit des crottes sur le... Ça s'appelle des laissés dans les forêts. On est incapable de dire si c'est un blaireau, un renard ou un sanglier. On voit des poils de chevreuil sur les arbres, souvent. Enfin, tout ça m'intéresse. Mais la justification, ce sera aussi de comprendre pourquoi les hommes coupent des arbres de 400 ans pour faire des tonneaux qui durent 2 ans. Donc, nos amis viticulteurs qui sont fiers d'avoir des tonneaux neufs, il s'agit de c'est issu d'arbres qui ont 300 ou 400 ans. Donc on a à la fois cette revendication de dire il faut préserver la nature. Aujourd'hui, c'est le boulot de nos enfants, parce que nous, on a été des vrais salopards. Enfin, je parle de nos générations depuis la guerre ou avant la guerre. En tous les cas, nos enfants, ils vont devoir penser à tout ça. C'est pas écologique comme discours, mais en tous les cas, la justification de ma balade, ce sera l'étude des chênes sessiles. Il y a 600 sortes de chênes. Aujourd'hui, je commence à avoir, non pas des notions, non, mais ça m'intéresse, parce que c'est un monde passionnant. J'ai appris, il n'y a pas très longtemps, mais tout le monde le sait, vous allez rigoler, mais les acacias, par exemple, quand ils sont mangés en Afrique, pas en France, en France, ils sont beaucoup plus civilisés, les acacias. Mais quand un acacia est attaqué par une chèvre, ou par une... Elle produit un jus acide qui gêne évidemment la chèvre, qui s'en va. Mais en même temps qu'elle produit ce jus acide, l'acacia, ils envoient des ondes aux autres acaciens. Et donc les acaciens se demandent. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont absolument merveilleuses. L'histoire des geais qui replantent les chênes. Les geais, ils ingèrent des glands, ils les rejettent pour les planter à certains endroits. Il y a plein de choses absolument merveilleuses. Et je me dis que je vais... Donc je pars dans la forêt de la Double, qui est une forêt qui est près de Bordeaux. Ouais. Qui est une forêt où autrefois il y avait des monstres, dit-on. Parce que c'était une forêt qui était coupée du monde. Les gens vivaient pratiquement en autarcie autour des petits plans d'eau qu'il y avait. Et comme il y avait vraisemblablement des incestes, et il y avait des gens qui avaient des malformations, mais aussi parce qu'il y avait des carences alimentaires. Ils bouffaient que des poissons de ces petits lacs ou étangs. Et c'est des médecins en 1870 qui ont décidé de faire des chemins, des routes et des voies ferrées pour désenclaver cette forêt qui est très mystérieux. Alors, si je dors là-dedans, j'espère que je ne vais pas être attaqué par des... Mais en tous les cas, voilà. Bon, l'histoire.
Donc, ça nous donnera l'occasion d'une nouvelle rencontre avec Jean-Pierre, cette fois-ci, non pas autour de la vigne, mais autour des arbres. Et sur le vin et sur les cépages, juste pour conclure, que vous a pris ce voyage ?
Mais de ne pas avoir des exigences professionnelles quand il s'agit de vin. Je pense que le métier de viticulteur est un métier qui est difficile. Tous les gens qui mettent du vin en bouteille sont des gens honnêtes. Enfin, en tous les cas, je le crois. Je pense qu'il faut... Il y a des gens qui sont plus adroits que d'autres, mais dans tous les métiers, c'est ça. Mais il y a des gens qui font, certes, des vins qui ne sont pas bons. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est la tricherie. Quand vous avez des... Alors bon, on pourrait parler des vins pendant des heures, mais aujourd'hui, il y a des viticulteurs qui font des vins qui boisent beaucoup trop et qui sont des vins qui sont acides, qui sont maigres. Ça, les défauts rédhibitoires d'un vin, il faut effectivement les refuser. Mais je pense que moi, je connais des tas de viticulteurs qui font des vins qui sont, évidemment, compte tenu du terroir et compte tenu du nombre de pieds à l'hectare. Vous savez, le nombre de pieds à l'hectare, il varie de 2000 pieds à l'hectare en entre-deux-mers, jusqu'à 8000, voire 10000 pieds dans le Médoc. Donc, c'est comme si vous faites un litre de jus d'orange avec deux oranges ou avec 22 oranges. Voilà. C'est exactement la même chose. La concentration n'est pas la même. Mais ce qui m'a... Aujourd'hui, on parle des vins nature. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des vins nature. Les vins nature, c'est des vins qui ne... Alors bon, c'est à la mode, c'est... Beaucoup de gens en parlent, c'est le contraire des vins de parker. Les vins nature, c'est des vins qui n'ont pas été touchés par des produits qui sont le soufre, etc. Donc c'est des vins qui, pour la plupart, retravaillent un peu dans les bouteilles, pas tous, mais en tous les cas, c'est une mode à Paris, sur les vitrines des restos, les mecs qui mettent vin nature ou vin vivant ou vrai vin, etc. Bon, c'est le contraire de ce qu'a fait Parker, mais c'est aussi con que ça reviendra vers le milieu, c'est-à-dire on part sur des trucs complètement idiots. Et moi, j'ai des copains qui m'ont dit je paie pas 80 balles une bouteille de pinard pour boire du vinaigre. Donc voilà.
Merci beaucoup. Merci. On arrive au terme de cette rencontre. Vraiment, je vous recommande la lecture de ce livre qui est un voyage dans la civilisation du vin, mais aussi dans le cœur et dans les préoccupations de Jean-Pierre Xeradakis, et beaucoup d'amitié, beaucoup de très belles rencontres. Voilà, je vous le recommande. Merci Jean-Pierre.